Ce soir, je voudrais partager quelques réflexions sur le sens de ce que nous faisons ici. Il me semble que c'est important de le faire à un certain moment donné. Non pas pour nous-mêmes, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé pendant ce mois, mais dans le fond pour tous les autres. Le sens de ce que nous faisons ici. Ce qui me surprend parfois, c'est lorsqu'on parle d'aller en retraite pendant une certaine durée, en silence. Les gens, quelquefois, ont cette réflexion, mais est-ce que ce n'est pas un peu égoïste? Alors que si on parlait d'aller au sport d'hiver pendant un mois, personne dirait c'est égoïste. On dirait t'en as de la chance. Mais se retirer, ce qui est quand même surprenant, ce qu'on entend aussi par rapport aux, par exemple, aux nonnes et aux moines chrétiens qui sont dans le silence dans les monastères, à quoi ils servent. Remarque assez triste d'ailleurs. Donc on peut se demander ce qu'on fait là ici dans le silence. Le sens que ça a au-delà de nous-mêmes. Parce qu'évidemment, c'est une question qu'il est bien de se poser. On veut bien entendre les remarques. Est-ce que ce n'est pas égoïste ou à quoi ça sert? Je voudrais rappeler cette histoire que Martin Buber raconte dans son petit livre magnifique qui s'appelle Le chemin de l'homme ou les chemins de l'homme, où il raconte cette histoire de ce rabbin qui est emprisonné à Saint-Pétersbourg, accusé par un autre groupe de religieux. Et le soir, le chef des gardes va le voir pour le questionner. Dans le fond, il sait la réputation de ce rabbin et il essaye de le prendre en défaut. Il lui dit, pourquoi est-ce que dans la Bible, au début de la Genèse, Dieu demande à Adam, où es-tu? Il dit, si c'est Dieu, il doit bien savoir où il est. Pourquoi est-ce qu'il lui demande, où es-tu? Et le rabbin ne répond pas à cette question-là, qui lui semble assez peu intéressante. Il lui dit bien que Adam ne se cache pas de Dieu, mais qu'il se cache de lui-même. Et que cette question est posée à toutes les générations et à chaque personne. Où es-tu? Dans le sens de est-ce qu'on se cache à soi-même ou est-ce qu'on est vraiment là dans sa propre vie? Donc c'est bien ce qu'on explore ici. Certaines personnes pensent ou font la promotion que mordre dans la vie à belles dents, c'est-à-dire s'agiter beaucoup, vivre intensément, c'est la manière de vivre la plus complète, alors que peut-être c'est la manière la plus efficace de se fuir. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas se cacher, de se dévoiler à soi-même, dans cette exploration de la présence que nous faisons ici, qui est fait d'être là totalement dans sa vie. Non pas dans l'activité, non pas dans les projets. Évidemment, on peut être dans les projets, dans l'activité, sans se cacher, la question n'est pas là. Mais explorer ce fait de découvrir où on est à chaque instant, à travers chaque expérience, à travers la tristesse, à travers la somnolence, à travers l'agitation, le calme, la tranquillité, la joie. On peut aussi se perdre dans la joie, se cacher dans la joie. Donc ce que nous explorons ici, cette réponse un peu, cette invitation qu'elle nous convie, Martin Buber, dans son petit texte, Où est-ce qu'on est dans sa vie à chaque instant? Pour découvrir, dans le fond, ce qui fait l'essence de notre humanité, non pas l'activité. D'ailleurs, on se rend compte maintenant avec tous les projets de remplacer l'activité humaine par des robots, que ce n'est pas ce qui fait notre humanité. C'est autre chose. Donc c'est ce que nous explorons là. Texte de la tradition indienne dit que la tradition n'est pas le culte qu'on rend à des cendres, mais la transmission d'un flambeau. C'est-à-dire que ce flambeau, c'est essentiellement cette valeur qu'on donne à notre propre humanité, ce respect qu'on donne à ceci, avant toute valeur dérivée, on pourrait dire. De revenir à ce que nous sommes essentiellement, dans cette présence, pour découvrir peut-être au-delà aussi quelque chose qui est ce que nous sommes essentiellement, plus profondément, qu'on a appelé liberté dans des exposés précédents. Donc ce que nous faisons a un sens essentiel. C'est l'expression de. Des valeurs que l'on veut bien placer. C'est-à-dire la valeur, on la met là, dans ce respect de notre propre humanité. Ce qui permet cette transmission d'un flambeau, au-delà des traditions et de tout ce qu'elles peuvent avoir comme formes dans lesquelles on pourrait se perdre. C'est ce qu'il y a d'essentiel dans ce fait de revenir à sa propre humanité et de l'approfondir dans la présence et découvrir peut-être ce qui fait notre essence. C'est bien cette flamme dont nous prenons soin et que l'on transmet par notre simple présence ici. On n'a pas besoin de prendre des selfies et les mettre sur Internet pour dire, voyez comme on pratique bien. Pas sûr que ça serait très très crédible. Mais je suis souvent surpris des gens qui entendent qu'on va en retraite, en silence et autres. Pas toujours d'ailleurs ceux auxquels on s'attend à, desquels on s'attend à avoir une sorte de réponse positive, que ça interpelle, et qui se posent aussi des questions sur l'essentiel de la condition humaine. Donc le fait de marquer, peut-être de mettre un peu entre parenthèses d'autres valeurs d'acquisition, etc., qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais quand elles sont les seules, alors elles sont limitées. Donc prendre soin de ceci à joue un rôle extrêmement important. Dans un sutra, il est dit, lorsqu'il y a dans un pays 4 moines, alors la sangha est encore, la communauté des moines est encore présente, existe. Ce n'est pas notre souci. Mais on pourrait dire, tant qu'il y a des personnes qui explorent et peuvent manifester cette présence essentielle, alors il y a une flamme qui est encore vivante. Même si c'est assez rare de rencontrer tout d'un coup quelqu'un qui soit vraiment présent. Vraiment présent, ça ne veut pas dire 24 heures sur 24, mais au moins parfois, tout d'un coup quelqu'un qui est vraiment là. Un être humain réel, on pourrait dire, qui n'est pas un fantôme. C'est assez rare. Suffisamment pour qu'on le remarque. Tiens, là, tout d'un coup, il y a quelqu'un. Même dans le rapport à autrui, même le rapport de générosité, le travail pour autrui, lorsqu'il est fait aussi avec une certaine qualité de présence, il ne transmet pas simplement l'aide à autrui qu'on pourrait apporter et dont il pourrait avoir besoin. Mais on apporte encore quelque chose de plus essentiel. Je me souviens d'une remarque de Simone Weil. Je vais essayer de la tourner dans le bon sens. Mais il disait, lorsque, dû aux circonstances, une personne est placée au-dessus d'une autre, administrativement, du point de vue des conditions économiques, etc. Donc cette personne est mise dans une position supérieure lorsque elle considère la personne qui est en dessous. Elle la traite comme une personne égale à elle-même. Alors elle lui fait le don de sa propre humanité. Donc il y a là quelque chose d'essentiel qui est transmis. Ce n'est plus la position ou le pouvoir, on pourrait dire un pouvoir économique, dans un acte de générosité. Ce qui est plus important, qui est transmis ici, c'est la reconnaissance de l'humanité de l'autre. Mais ça peut se faire uniquement lorsqu'il y a une certaine présence. Non pas une manière de pratiquer la générosité qui serait seulement efficace. Donc le reconnaître aussi l'humanité de l'autre. Martin Buber aussi parlait de cet acte de générosité où l'humanité des deux personnes est reconnue dans leur totalité. Donc ce que nous explorons ici est extrêmement important. Pas seulement pour nous, pour notre cheminement spirituel, notre progrès spirituel, même si ça joue un rôle, c'est important d'avoir cette motivation d'approfondir un peu un chemin spirituel. Mais la valeur est bien au-delà de ceci. C'est extraordinaire qu'on soit là tous ensemble et avoir pratiqué pendant tous ces jours avec autant de détermination, avec autant de sérieux. D'une certaine manière, c'est quelque chose d'impensable. Si on imagine que Mahasi Sayadaw, début du XXe siècle, donc le grand maître birman, lorsqu'il a voulu trouver un maître de méditation, n'en a pas trouvé en Birmanie. Il a trouvé un vieux moine qui avait quelques notions, mais rien, il n'y avait plus aucune personne qui pratiquait la méditation. Sri Lanka, la plupart des moines pensent que c'est fini la méditation, c'est d'un autre temps. Pas grand-chose à en espérer. Donc de se rendre compte, là qu'au XXIe siècle, tout d'un coup, il y a encore des gens qui pratiquent avec autant de sincérité la méditation. C'est pour ça que je dis que c'est presque incroyable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ou cette flamme qui était quand même extrêmement faible, tout d'un coup, a repris de la vigueur. Dans les monastères au Tibet, on dit que peut-être que 5%, 3% des moines pratiquaient la méditation. On voit des assemblées de moines, monastère de Drepung, 7000 moines, on se dit, ça devait être... Ils n'étaient pas 7000 en silence comme nous. Quelques-uns pratiquaient, les autres avaient toutes les activités pour gérer un monastère aussi grand. Donc c'est important de développer un respect pour ce que nous avons fait, respect pour vous-même, pour chacun de vous, et aussi pour tous les autres. D'avoir trouvé comme ça un groupe d'amis pour partager ces jours en silence. Ça n'aurait pas eu la même allure s'il y avait eu 3 personnes. Il n'aurait pas eu la même qualité du silence dans cette salle. Par la même inspiration pour ces 3 personnes. On ne sait pas lesquelles 3 d'ailleurs ont été là. Donc je crois que c'est important de développer ce respect pour soi-même. Cette fierté, cet orgueil. On a vite tendance à s'attacher un petit peu à nos lacunes. On vient méditer, et puis on voudrait avoir un esprit calme et autre, et puis on rencontre de l'agitation, de la somnolence. Et quelquefois on se décourage ou on se dénigre, mais il y a quelque chose bien au-delà de ceci, cet engagement à explorer ce qui est essentiel. Mais même quand il y a de la distraction, un peu de somnolence, on est quand même un transmetteur ou une personne, une transmetteuse de la flamme. Parce qu'on manifeste ce soin de cette valeur-là essentielle. Je crois qu'à toutes les époques, les personnes qui se sont engagées dans l'essentiel ont été peu nombreuses. On peut s'imaginer qu'avant c'était mieux, mais voilà, j'ai cité le début du XXe siècle pour montrer que dans le monde bouddhiste, il n'y avait pas tellement de gens qui méditaient. En tout cas, dans le sud-est asiatique, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Puis au temps du Bouddha, toujours extraordinaire, le Bouddha enseigne au pic des vautours, il y a 500 personnes, etc. Si vous êtes au pic des vautours, vous mettez 10 personnes, puis c'est fini, il n'y a plus de place. Donc on se rend bien compte que les textes, on en rajoutait un petit peu. Donc, faut pas croire que avant, les quantités de pratiquants étaient immenses. Donc c'est toujours une responsabilité finalement que doivent assumer les petits groupes de personnes. Mais en prenant conscience de l'importance de ceci. Imaginez-vous si la tradition de la méditation s'était éteinte dans le fond au début du XXe siècle, parce qu'on dépend quand même de ceci, il faut bien le dire. On a appris des maîtres birmans, surtout de cette tradition-là, des maîtres thaïs en ce qui concerne la méditation, des maîtres tibétains aussi. Mais si cette tradition s'était éteinte, on pourrait bien lire des textes, mais voilà, les textes manquent de vie pour transmettre quelque chose. Donc de cette manière-là, nous avons aussi la responsabilité de prendre soin de cette flamme. Et c'est un peu ce que nous faisons et ce que nous allons faire lorsqu'on rentre à la maison. On ne va pas évidemment commencer à dire à tout le monde, maintenant vous asseyez, vous fermez les yeux, voilà. Ce serait vraiment le moins bon moyen, mais quand même ce respect qu'on a pour ceci. Et la manière de transmettre cette valeur. Voilà, je voudrais qu'on termine par quelques minutes en silence. Réfléchissez un peu, contemplez un petit peu ce respect pour vous-même et aussi pour toutes les personnes qui sont dans cette salle, de s'être engagées avec autant de sincérité dans cette pratique. Combien nous nous sommes soutenus les uns les autres. Donc c'est le moment de développer l'orgueil, la fierté, tout ce qui n'est pas bien développé. Vous pouvez y aller. Parce qu'elle est bien placée. Avoir un respect pour soi-même, respect pour les autres.